Chapitre 17e. Elisabeth communiqua à Jane tout ce que Mr. Wickham lui avait raconté. Elle l'écoutait avec surprise et chagrin. Elle ne pouvait croire que Mr. Darcy fût si peu digne de l'amitié de Bingley. Et cependant, il n'était pas dans son caractère de soupçonner la véracité d'un homme aussi aimable que Mr. Wickham. L'idée seule qu'il pouvait avoir été traité avec tant de dureté excitait en elle le plus vif intérêt. Elle ne pouvait avoir mauvaise opinion ni de l'un ni de l'autre, et se trouvait donc réduite à excuser leur conduite en mettant sur le compte d'erreurs et de mésentendus ce qu'elle ne pouvait expliquer autrement. « Je croirais, disait-elle, qu'ils ont été trompés, réciproquement, de quelque manière que nous ne pouvons deviner. Des gens intéressés ont peut-être cherché à les noircir l'un à l'autre. Il nous est impossible de conjecturer les circonstances qui peuvent les avoir brouillés, sans qu'il y ait eu peut-être de véritables torts d'un côté ni de l'autre. Peut-être. Mais alors, ma chère Jane, comment pourrez-vous justifier les gens intéressés que vous croyez compromis dans cette affaire? Excusez-les donc, ou bien nous serons obligés d'avoir mauvaise opinion de quelqu'un. Riez tant que vous voudrez, ma chère Lizzie, mais vous ne me ferez point changer d'avis. Considérez sous quel jour défavorable vous placez Mr. Darcy en admettant qu'il ait si maltraité le protégé de son père. Un jeune homme que son père avait promis de placer. C'est impossible. Il n'y a pas d'homme qui se respecte lui-même qui fût capable de cela. Ses amis les plus intimes pourraient-ils être aveuglés à ce point sur lui? Je crois plus aisément que Mr. Bingley est dans l'erreur, que je ne puis croire que Mr. Wickham ait inventé l'histoire qu'il m'a faite hier au soir. Dire les noms, les faits. Si cela n'est pas, que Mr. Darcy le démente. D'ailleurs, la vérité brillait dans ses yeux. C'est difficile, en effet, on ne sait qu'en penser. Je vous demande pardon, on sait très bien qu'en penser. Mais Jane ne pouvait se décider à condamner l'un ou l'autre. Elle s'affligea seulement de ce que Mr. Bingley aurait à souffrir si cette histoire était prouvée et si vraiment il avait été trompé. Elle fut rappelée du verger où ils avaient eu cette conversation par l'arrivée de plusieurs des personnes dont elles avaient parlé. Mr. Bingley et ses sœurs venaient les inviter pour le bal tant désiré qui était enfin fixé au mardi suivant. Les dames de Netherfield accablèrent d'amitié leur chère Jane. Elles se plaignirent qu'il s'était écoulé un siècle depuis qu'elles ne l'avaient vue, et firent peu d'attention au reste de la famille, évitant par-dessus tout Mrs. Bennet, parlant peu à Elisabeth et point aux autres. La visite ne fut pas longue. Elles prirent congé avec une vivacité qui ne permit pas à leurs frères de retarder le moment du départ, et se hâtèrent de se dérober aux civilités de Mrs. Bennet. La perspective d'un bal à Netherfield était fort agréable à toutes les dames de la famille. Mrs. Bennet voulait le considérer comme donné en honneur de sa fille aînée. Elle était surtout extrêmement flattée que Mr. Bingley fût venu les inviter lui-même, au lieu de leur envoyer des cartes. Jane se figurait qu'elle passerait une soirée charmante entre ses deux amis et leurs frères. Elisabeth pensait avec plaisir qu'elle danserait beaucoup avec Mr. Wickham, qu'elle lirait sur la figure de Mr. Darcy et s'assurerait par la conduite qu'il tiendrait au bal de la vérité de ce qui lui avait été dit. Les plaisirs que se promettaient Catherine et Lydie ne dépendaient pas ainsi d'une seule personne, quoiqu'elles espérassent bien, comme Elisabeth, danser beaucoup avec Mr. Wickham. Il n'était cependant pas le seul partenaire qui pût leur plaire, et enfin, un bal était toujours un bal. Mary elle-même assurait la famille qu'elle n'avait aucune répugnance à y aller. « Tant que je pourrai disposer de mes matinées, disait-elle, cela me suffira. Ce n'est point un sacrifice au-dessus de mes forces de participer quelquefois au plaisir de la soirée. » D'ailleurs, la société a des droits sur nous, et j'avoue que je suis du nombre de ceux qui pensent que quelques moments de plaisir et de récréation sont absolument nécessaires aux gens qui travaillent beaucoup. La gaieté d'Elisabeth était tellement excitée par ses espérances que, quoiqu'elle parlât rarement sans nécessité à Mr. Collins, elle lui demanda s'il avait l'intention d'accepter l'invitation de Mr. Bingley, et s'il avait l'intention, dans ce cas, de prendre part au plaisir de la soirée. Elle fut très surprise de voir qu'il n'avait aucun scrupule et qu'il était très éloigné de craindre une réprimande de l'archevêque ou de Lady Catherine de Bourg s'il se hasardait à danser. « Je vous assure, disait-il, que je ne crois pas qu'un bal donné par un homme de distinction à des gens respectables puisse avoir aucun mauvais côté. Et je suis si éloigné de me faire des scrupules de danser moi-même que j'espère avoir l'honneur d'obtenir la main de toutes mes belles cousines dans le cours de la soirée. » Je saisis cette occasion pour demander la vôtre, Miss Elizabeth, pour les deux premières danses, préférence que j'espère que ma cousine Jane attribuera à un motif raisonnable et non à un manque de respect pour elle. Elizabeth fut prise. Elle avait fermement compté être engagée pour les mêmes danses par Wickham. Avoir Mr. Collins à la place, toute sa gaieté disparut. Il n'y avait pas moyen de s'en tirer. Il fallut accepter d'aussi bonne grâce qu'elle le put la proposition de Mr. Collins. La préférence qu'il lui accordait, contre ses principes, sur sa sœur aînée, lui fit craindre qu'il ne s'entint pas là. Et tout à coup elle fut frappée de l'idée que peut-être il l'avait choisie parmi toutes ses sœurs pour devenir maîtresse de la cure de Hansford, et pour aider à former la table de cadrer à Rossing lorsqu'il n'y aurait pas des visiteurs plus distingués. Ce soupçon devint pour elle une certitude lorsqu'elle vit combien ses attentions augmentaient. Il ne laissait échapper aucune occasion de lui faire quelques compliments sur son esprit et sa vivacité. Elle était plus étonnée que ravie de cet effet de ses charmes, et sa mère lui fit bientôt comprendre combien la probabilité de ce mariage lui était agréable. Elizabeth, cependant, ne voulut pas avoir l'air de deviner cette insinuation, bien persuadée qu'une sérieuse dispute avec sa mère serait la suite de toute objection de sa part. D'ailleurs, peut-être, Mr. Collins pourra-t-il ne pas en venir à demander sa main, et jusqu'à ce moment, il était inutile de disputer. Si l'on n'avait pas pu parler du bal et faire les préparatifs nécessaires, les jeunes Miss auraient été bien à plaindre, car depuis le jour de l'invitation jusqu'à celui de la fête, il y eut une telle succession de pluies que toute promenade à Meryton devint impossible. Il fallut se passer de tentes, d'officiers et de nouvelles. Il fallut même recevoir par procuration les souliers roses pour le bal. Ce mauvais temps avait aussi un peu exercé la patience d'Elizabeth en suspendant les progrès de sa connaissance avec Mr. Wakeham. Il ne fallait rien moins que la perspective du mardi pour faire supporter patiemment à Catherine et à Lydie les longues journées qui précédèrent celles du bal.